l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radiojournales. Au sommaire, la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel condamne la répression brutale exercée contre ses militants lors du récent sit-in. Dans un communiqué publié lundi 15 juin, elle réclame l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour établir les responsabilités et la restitution des corps soustraits de voie publique. Au sommaire également, 524 cas de violations et atteintes aux droits humains ont été documentés au mois de mars 2026 dans le province du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Le rapport fait également état des 46 cas de violences sexuelles liées au conflit, soit une hausse globale de 13% par rapport au mois précédent. La technique est assurée par Emile Moindo. Microphone pour la présentation. Je suis Omer Moudekireza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent détail.
Radio Mandeléo, la radio de proximité. Plus c'est mieux pour et avec ses auditeurs.
Et débutons cette édition du journal par cette information. Le Sénat a adopté hier lundi en deuxième lecture la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum constitutionnel. Le texte a été voté en des termes non identiques à ceux retenus par l'Assemblée nationale. La Chambre haute ayant introduit une modification des fonds sur la composition de l'Assemblée constituante appelée à rédiger la nouvelle constitution. La divergence porte sur l'exclusion des conseils communaux de cette Assemblée constituante. Là où l'Assemblée nationale les avait inclus comme composantes de cet organe, le Sénat a choisi de les en élaguer, amputant ainsi la future Assemblée constituante d'un échelon pourtant considéré comme le socle de la représentation locale et de la démocratie de proximité. Une modification qui, sans bloquer le processus sur le plan procédural, modifie sensiblement l'architecture de l'instance chargée d'écrire la nouvelle loi fondamentale. Conformément à la procédure législative congolaise, les deux chambres devront désormais s'accorder sur un texte commun, soit par voie des commissions mixtes paritaires, soit par une nouvelle navette parlementaire, avant toute transmission au président de la République pour promulgation. Pendant ces temps, la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, C64 en sigle, appelle à l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur les incidents survenus lors du sit-in du 12 juin à Kinshasa. La plateforme affirme vouloir établir les responsabilités et obtenir justice pour les victimes. Dans un communiqué rendu public et consulté par Radio Mandeléo hier lundi, la C64 dénonce qu'elle qualifie des répressions exercées contre les participants à cette manifestation organisée pour la défense de la Constitution et de l'État de droit. Elle fait état de violences, d'arrestations et d'intimidations visant ses dirigeants, militants et sympathisants. La coalition estime que ces actes constituent des atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution ainsi qu'aux engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de protection des droits humains. Par ailleurs, la C64 annonce la tenue d'une réunion d'évaluation des événements aujourd'hui mardi à l'issue de cette rencontre. Elle prévoit de communiquer ses conclusions ainsi que les prochaines étapes de ses actions citoyennes. La plateforme réaffirme enfin sa détermination à poursuivre ses initiatives qu'elle présente comme destinées à défendre l'ordre constitutionnel, l'état de droit et les libertés publiques. Et nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition. Au total, 524 cas de violations et atteintes aux droits humains ont été documentés au mois de mars 2026 dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et en Ituri. Il s'agit des 87 au Nord Kivu, 98 au Sud Kivu et 60 en Ituri, soit une hausse de 13% par rapport au mois précédent. À cela s'ajoutent 46 cas de violences sexuelles liées au conflit. Ces chiffres sont contenus dans les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, rendu public la semaine dernière et consulté par Radio Mandeléo lundi 15 juin 2026. Selon ces documents, 63% des violations sexuelles liées au conflit sont attribuées aux groupes armés, tandis que 37% sont imputées aux acteurs étatiques. Le BCNUDH s'inquiète de la persistance de ces violations qui continuent d'affecter gravement les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants dans les zones touchées par l'insécurité. À l'issue de l'examen de ces cas, 19 bénéficiaires, dont 2 femmes, parmi lesquelles 17 défenseurs de droits humains et 2 journalistes, ont reçu des conseils en autoprotection
documents ainsi qu'en appui en matière de plaidoyer et de suivi. Sur le plan judiciaire, poursuit ces documents, la lutte contre l'impunité a enregistré des avancées avec l'aboutissement des 4 poursuites engagées contre 3 militaires des forces armées de la RDC et un agent de la police nationale congolaise. Des procédures ont conduit à la condamnation de 3 personnes, dont 2 militaires des forces armées de la RDC et un agent de la police nationale congolaise, tandis qu'un militaire des forces armées de la RDC a été acquitté, indique le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le BCNIDH condamne ces violations de droits humains et appelle les autorités congolaises et l'ensemble des parties prenantes à renforcer les mécanismes de protection des civils, à poursuivre les auteurs de ces actes et à intensifier les efforts de lutte contre l'impunité. Et parlons insécurité dans cette édition du journal. Disons que toutes les maisons, boutiques de fabrication, des ventes et consommation de boissons fortement alcoolisées sur toute l'étendue du quartier d'Indéré, en commune d'Ibanda, doivent être identifiées par les chefs d'avenue à partir de ce lundi 15 juin 2026 avant de procéder à leur fermeture. Cette mesure vise à décourager l'insécurité causée ces derniers temps par certains jeunes qui se cacheraient dans ces maisons, surtout pendant la journée. C'est ce qu'indique le chef du quartier d'Indéré, le pasteur Miga Bonyagaza Albert, dans un entretien avec Radio Maïndéléo, lundi 15 juin 2026. Détail Alain Kabika.
Ces derniers disent être au courant de la présence d'un groupe d'au moins 6 jeunes qui sillonnent les avenues de son entité, munis d'une arme en bois pour tracasser la population. Le cas le plus récent est survenu dans la nuit des dimanches, 14 au lundi 15 juin 2026. Lorsque ces jeunes ont fait incursion dans plusieurs maisons d'habitation, dont les avenues Snell 1er et Télécom 1er, emportant plusieurs biens de valeur. Avant leur fuite, ces malfrats ont blessé un jeune d'environ 25 ans, qui a été immédiatement conduit dans une structure médicale pour des soins appropriés, indique le chef du quartier d'Indéré, le pasteur Miga Bonyagaza Albert. On l'écoute.
C'est vrai, ces malfrats avec l'arme en bois ont sillonné notre avenue au niveau des Snell 1er et Télécom 1er. Nous sommes beaucoup surpris si un quartier d'Indéré composé d'une population à 80% jeune se plaint de l'insécurité causée par ces jeunes qui se déguisent en militaires. L'insécurité que nous avons est causée par la jeunesse qui passe les journées et les nuits dans les maisons de boissons fortement alcoolisées et pourtant ces jeunes devraient nous aider pour traquer les bandits qui insécurisent la population dans notre quartier d'Indéré ces derniers temps. Nous sommes au courant de la présence d'un groupe de 6 jeunes qui sillonnent les différentes avenues pour semer terreur et désolation. Il faudrait que nous puissions mettre la main sur ces derniers. Que les chefs d'avenue et les 10 maisons identifient ces maisons de fabrication, de vente, de consommation de boissons fortement alcoolisées pour la fermeture. Nous profitons notre micro pour demander à la population de dénoncer. Il faudrait que nous puissions mettre la main sur ces gens. Nous avons besoin de chanter la paix et vivre la paix.
Ces cadres de base appellent ses administrés à développer la culture de dénoncer tous les bandits qui les insécurisent et qui se cachent dans différentes maisons.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations en temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est Radio Maïndéléo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
La suite de cette édition du journal, la maladie à virus Ebola est une maladie comme tant d'autres qui peut guérir et être éradiquée si tout le monde s'implique sans relâche en observant les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Ce message est du docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé, au cours d'une interview accordée lundi 15 juin 2026 à Radio Maïndéléo. Il indique que la riposte contre l'épidémie à virus Ebola évolue bien en province du Sud Kivu grâce à l'implication de tous les intervenants. Il encourage les efforts des relais communautaires, particulièrement ceux de la zone de santé de Mitsimuresa où le premier cas a été déclaré. Le docteur Claude Baïzir encourage également la population à ne pas avoir peur de cette maladie, mais plutôt redoubler d'efforts pour barrer la route à sa propagation afin que dans les prochains jours, la province soit déclarée une province sans la maladie à virus Ebola. Docteur Claude Baïzir en parle.
Pour le moment, il y a comme espoir, il y a une bonne évolution. Et comme vous le savez, on a eu un premier cas qui est venu des Touris, qui avait amené la maladie dans la province. C'était dans la zone de santé de Mitimoresa, dans l'aide de santé de Kaungu. Et les actions de santé publique avaient déjà commencé. Et grâce à ces actions, et jusque-là, on n'a pas encore d'autres cas. Mais cela n'est pas à dire que l'Ebola est fini dans la province. Nous sommes en train de suivre les cas contacts qui n'ont pas encore totalisé 21 jours. Donc, la province a encore des problèmes avec Ebola. Mais disons, on est en train de bien gérer la situation. Nous espérons que ça va aller comme ça. nous sommes en train de faire tout pour que la population ait assez de connaissances. Et on a trouvé qu'en tout cas, il y a un grand changement. Il y a même des récords qui ont été mis en contribution, qui sont en train de passer de porte à porte à Kaungu et dans certaines aires de santé tout autour de Kaungu. Mais ce que j'aimerais demander à la communauté, l'Ebola, c'est une maladie comme toute autre maladie. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir qu'il y en a qui peuvent survivre de cette maladie à condition d'aller vite au centre de santé et ne pas s'enfermer dans la maison.
Et dans ce même chapitre, les habitants du quartier Bouo-Lokacha sont invités à plus de prudence et de vigilance, particulièrement en ce qui concerne les risques des maladies comme le choléra. Ceci passe par le lavage régulier des mains et les signalements de tout cas suspect auprès des autorités sanitaires. Cet appel est du chef des quartiers Bouo-Lokacha, Mugaruka Boudougue Patrice, après avoir enregistré au moins 5 personnes mortes d'une maladie apparentée au choléra dans cette partie de la commune de Bagira à Bukavu. Ce cadre de base explique que les avenues le plus à risque sont Moussaka 1 et 2, ainsi que l'avenue Kacheke 3. Il attribue cette maladie à l'absence de l'eau potable et à l'utilisation de l'eau souillée. Il remercie la zone de santé de Kadutu, la Croix-Rouge et les autorités pour leur implication dans la remise des médicaments et la pulvérisation des ménages. Mugaru Kabudugue Patrice appelle ainsi ses administrés à respecter les mesures barrières pour se protéger contre cette maladie. On l'écoute.
Nous avons eu des cas de choléra dans les avenues Moussakambo 1er, Moussakambo 2 et Kacheke 3. Nous avons perdu 5 personnes en 2 jours. Quand nous avons demandé l'aide aux autorités, ils nous sont venus en aide, ils nous ont donné le médicament approprié, de pulvériser dans le parcelle, dans les toilettes, et donner aussi des médicaments pour mettre dans l'eau. Nous demandons à notre population de faire tout pour être propre chaque jour, que nos parcelles soient en bon état chaque jour, nos toilettes aussi, et aussi lavage de mains chaque jour. Nous demandons aux églises, aux écoles de se procurer des eaux robinet pour que chaque fois que nous entrons ou nous sortons là où nous étions, que nous lavons les mains. Merci au cadre de base de Nyumbakumi qui ne cesse de sensibiliser notre population. L'assainissement dans notre quartier.
Et changeons de chapitre à présent. Les personnes âgées ne sont pas des charges pour la société, mais une mémoire vivante, une lumière et un patrimoine qu'il faut protéger, consulter et respecter dans toutes les décisions. Message de l'abbé Jean-Claude Chiza, secrétaire exécutif ad intérim de la structure Wazewetu, dans une interview avec Radio Maïndeleo, lundi 15 juin 2026, à l'occasion de la 21e édition de la Journée internationale de lutte contre les maltraitances faites aux personnes âgées. Détail, Expédie Kialou.
L'abbé Jean-Claude Chiza rappelle que cette journée internationale vise à sensibiliser l'opinion sur les différentes formes de violences et de négligences dont sont victimes les personnes âgées, mais aussi encourager des politiques et des actions concrètes en leur faveur. Il précise que ces maltraitances se manifestent sous plusieurs formes. Sur le plan physique, par exemple, certaines personnes âgées subissent des violences au sein de leur famille ou de leur communauté, allant parfois jusqu'à des accusations injustifiées de sorcellerie suivies des actes de justice populaire. Sur le plan psychologique, elles sont souvent marginalisées et ignorées dans les prises de décision, en plus d'être privées de considération, ce qui affecte leur dignité et leur santé. Sur le plan financier, l'abbé Jean-Claude Tisa déplore la précarité dans laquelle vivent de nombreuses personnes âgées, souvent sans pension ni soutien familial suffisant, ce qui les expose à la mendicité et à l'insécurité. Face à cette réalité, il plaide pour une meilleure valorisation des personnes âgées et recommande à leur implication dans les décisions familiales et communautaires, ainsi que la promotion du dialogue intergénérationnel afin de favoriser la transmission de l'expérience et des valeurs. La protection des personnes âgées reste un impératif moral et social pour bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de la dignité humaine, indique l'abbé Jean-Claude Chiza.
Les personnes âgées sont les piliers de la famille, sont, je dirais, les fondations de la famille. Ne pas les considérer, c'est oublier ce qu'elles ont été dans la société, dans la famille, dans l'histoire de la vie familiale, de la société. Parfois, elles détiennent des secrets, des récits pour la famille et pour la société. Donc, on doit les considérer, on doit les associer aux décisions au sein de la famille, au sein de la communauté. Nous regardons, par exemple, dans nos communautés chrétiennes, des personnes âgées sont considérées comme des conseillers de la communauté. Sont considérés dans nos familles comme des conseillers. Pour pas prendre des décisions, on doit consulter ces personnes puisqu'elles ont un héritage. Moi, je le considère comme des patrimoines qu'on doit protéger, qu'on doit consulter à tout moment.
Le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée est « Au-delà de la sensibilisation pour une prévention efficace de la maltraitance des personnes âgées ».
Merci à vous, Expedi Kialoué. Dans le reste de l'actualité, les déchets continuent de s'accumuler dans plusieurs coins de trois communes de la ville de Bukavu, à savoir Ibanda, Bagira et Kadutu. Stockés depuis plusieurs semaines maintenant, ces déchets constituent une menace permanente pour la santé de la population. Parmi les endroits le plus concernés figurent Mungu, à l'endroit communément appelé Chebilala, au terrain de Mukukwe, les abords de la Banque Centrale du Congo à l'ISP, à Kadutu, dans les avenues Bouole au Grand Marché, n'est-ce pas Myriam Mofano?
Dans ces différents endroits, des tas d'ordures restent visibles, en attente de véhicules d'évacuation mais sans intervention. L'exposition prolongée de ces déchets risque de favoriser la propagation de plusieurs maladies, notamment les choléras, la fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques en raison de l'insalubrité qu'il engendre. Pour Hippocrate Maromé, modérateur du collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu, cette accumulation des déchets constitue une menace pour la santé publique et dégrade davantage l'environnement urbain. Il estime que la gestion des déchets demeure un défi majeur qui nécessite l'implication de tous les acteurs concernés. Hippocrate Maromé estime que les organisations chargées de l'assainissement et de l'évacuation des déchets devraient assumer pleinement leurs responsabilités. Leur mission ne devrait pas se limiter à la perception des taxes ou rédévances, mais également à garantir un service régulier et efficace des collectes et des traitements des déchets au bénéfice de la population. Il recommande par ailleurs aux habitants de faire preuve de responsabilité en évitant de jeter les déchets dans les rues, les caniveaux et les espaces publics afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la préservation de la santé. Il en parle dans cet élément.
Nous profitons de cette occasion pour interpeller les organisations d'évacuation des déchets à leur responsabilité dans leurs attributions d'évacuer les déchets parce que certaines sont mobilisées beaucoup plus à l'argent qu'à évacuer les déchets et c'est là que nous appelons le maire de la ville à pouvoir envoyer le service d'assainissement sur l'étendue de la ville de Bukavu pour faire le constat et de prendre des options, des décisions fermes pour sanctionner les différentes organisations d'évacuation des déchets qui ne se limitent qu'à récolter de l'argent des contribuables sans pour autant évacuer les déchets. Nous en appelons aussi la population à plus de responsabilités, surtout comme il n'y a pas de pluie, donc facilement on est en train de voir des bouteilles et d'autres déchets ménagers en train d'être jetés un peu partout dans les caniveaux, ce qui peuvent être à l'origine de plusieurs maladies.
Notre source salue par ailleurs les initiatives mises en œuvre par les autorités provinciales afin de lutter contre l'insalubrité et d'améliorer les conditions de vie des habitants.
Merci à vous, Myriam Mofano. Pendant ces temps, le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance Barès à la Raïa plaide pour la prise en charge exceptionnelle de la totalité des frais scolaires des élèves pour l'année scolaire 2026-2027 dans les écoles publiques et privées situées dans les zones sous contrôle de l'AFSM-23. Dans une requête adressée au ministre national de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, et dont une copie nous est parvenue, cette structure citoyenne indique avoir saisi l'autorité dans le souci de prévenir l'abandon massif des élèves qui pourrait surgir suite au manque de moyens financiers par les parents d'élèves. Son président Amani Lwamba Chadrak ajoute que dans les zones précitées, les parents sont économiquement épuisés suite à la guerre et l'on dit que nombreux parmi eux ont été contraints de fuir abandonnant leurs champs et ou leurs activités socio-économiques. D'autres ont perdu leurs emplois et pour le moment, le retour de leurs enfants à l'école l'année prochaine reste hypothétique. Le président national du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, Maître Amani Lwamba Chadrak, en parle.
Les parents n'ont plus d'économie qui leur permettent de renvoyer les enfants à l'école, en particulier ceux des secondaires, sans omettre aussi ceux des universités qui, actuellement, la majorité ont abandonné parce que les parents vivaient des petits commerces, des économies agricoles, de petites épargnes et d'autres par des crédits bancaires et ces ressources ont été suspendues. Et nous avons estimé que pour que l'État puisse soulager les parents pour l'année 2026-2027, que l'État puisse encore, au-delà des efforts déjà fournis, prendre une mesure exceptionnelle en faveur des écoles publiques et privées du Nord Kivu et du Sud Kivu, en fait de prendre en charge les enseignants, le frais scolaire. Cela va apaiser la souffrance des différents parents qui ont vu leurs enfants abandonner l'école.
C'était là le président national du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance, Maître Mani Luamba Shadrack, au micro des radios Maïndélo. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que l'EDAP ISP a été sacrée école championne de la compétition interscolaire des génies en herbe édition 2026 organisée par Radio Maïndélo. Sur 24 écoles en lice depuis septembre 2025, l'EDAP ISP a battu en finale dimanche 14 juin 2026 l'Ancity Kanyantende sur le score de 75-40. Des questions de culture générale, d'orthographe, de calcul rapide, d'histoire et de la géographie étaient au centre de cette compétition. Il s'est rappelé que l'émission Génie en herbe, duel intellectuel sur Radio Maïndélo, qui passe chaque dimanche à partir des 13h, vise à minimiser les risques d'échecs en milieu scolaire, tester la connaissance des élèves, pousser les élèves à la lecture et à la documentation. Elle vise à cultiver l'esprit scientifique des élèves, promouvoir la maîtrise de l'histoire et de la géographie de la RDC, mais aussi la maîtrise correcte de l'orthographe des mots. Le tournoi a bénéficié du soutien de députés provinciaux Jackson Kalimba, Kinga Mwendanga Béatrice et Didier Katembera, mais aussi de la dynamique Sami Magadjou.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïndélo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, le Cap Vert a signé l'une des sensations de cette Coupe du Monde 2026. Les Cap Verdiens ont tenu un échec l'Espagne hier lundi à Atlanta sur un score de 0-0. Face à une équipe espagnole pourtant favorite, les Cap Verdiens ont livré une prestation défensive remarquable. Grâce à ces résultats historiques, les Cap Verts décrochent un précieux point dans le groupe H. Dans le groupe G, l'Égypte a également réussi son entrée en compétition. Opposé à la Belgique, les Pharaons l'ont amené au score avant d'être rejoints dans la dernière demi-heure. Le match s'est finalement soldé par un nul d'un but partout, un résultat encourageant avant les prochaines rencontres face à l'Iran et à la Nouvelle-Zélande. Enfin, dans l'autre match du groupe H, l'Arabie Saoudite a tenu tête à l'Uruguay. Les deux sélections se sont quittées sur un score de parité d'un but partout au terme d'une rencontre disputée. Un résultat qui maintient toutes les équipes du groupe en course pour la qualification au deuxième tour. Les regards se tournent à présent vers les rencontres prévues ce mardi. L'affiche la plus attendue de la journée mettra aux prises la France et le Sénégal à partir de 21h heure de Bukavu. Un duel qui s'annonce particulièrement disputé entre le vice-champion du monde et les Lions de la Teranga. Plus tôt, l'Irak affrontera la Norvège avant l'entrée en lice de l'Argentine qui sera opposée à l'Algérie dans le groupe J.
La revue de presse, Radio Maïndélo Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La perturbation des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola suite au manque d'accès à l'eau potable dans le territoire des Kabaré et la mise en garde contre la prolifération des contenus générés par l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux font partie des sujets commentés par la presse lundi 15 juin 2026. Mira Moufano pour la revue de presse.
Débutons cette revue de presse par watotonews.net qui écrit « Le manque d'accès à l'eau potable au centre de santé des Bougouchoudé, situé dans les groupements des Bouchouba, en territoire des Kabar, suscite des inquiétudes dans un contexte de prévention contre la maladie à virus Ebola. Selon les responsables sanitaires approchés par ces médias, l'absence des robinets fonctionnels complique le respect du mesure d'hygiène indispensable à la protection des patients. Cette situation affecte particulièrement les enfants qui représentent une part importante de patients accueillis dans les structures. Les professionnels de santé rappellent que l'hygiène des mains constitue l'une des principales barrières contre la propagation d'Ebola. Au-delà de cette maladie, le manque d'eau potable expose également les enfants à d'autres problèmes de santé, notamment les maladies diarrhéiques, les infections cutanées et d'autres pathologies liées à l'insalubrité. Ces derniers, en collaboration avec le défenseur des droits de l'enfant, appellent les autorités et partenaires du secteur de la santé à améliorer durablement l'approvisionnement en eau potable du centre de santé. Il estime qu'investir dans l'accès à l'eau potable permettrait non seulement de renforcer la lutte contre les épidémies, mais aussi de garantir aux enfants un environnement de soins sûrs et conformes à leur droit à la santé, conclut Watotonews.net. De son côté, stnews.info écrit, la population du village de Moulima dans le territoire de Fizi fait face à une grave pénurie d'eau potable. Les habitants de Pente Donilique Point d'eau, situés à plus d'un kilomètre du village, obligeant notamment les femmes à parcourir des longues distances pour s'approvisionner, avec des risques liés à l'insécurité aux violences basées sur les genres. Selon le mouvement citoyen Matuzi Araïa, approché par ces médias, cette situation a provoqué le 13 juin dernier un affrontement entre les femmes des militaires des FARDC et de femmes civiles au niveau du point d'eau. Les conflits seraient liés à l'insuffisance de cette ressource face aux besoins croissants de la population. Face à cette situation, le mouvement citoyen Matuzi Araïa a appelé les autorités et le partenaire à intervenir rapidement en créant de nouveaux points d'approvisionnement en eau potable. Les acteurs communautaires soulignent qu'un accès adéquat à l'eau est essentiel pour garantir la santé, la sécurité et la stabilité sociale de la population. Ils estiment qu'une intervention durable permettrait d'améliorer les conditions de vie des habitants tout en prévenant de nouveaux conflits liés à la rareté de l'eau. Vous lancez une revue de presse par radiouniversitaire.net qui met en garde contre la prolifération de contenus générés par l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux qui perturbent l'environnement médiatique et rendent difficile pour de nombreux citoyens la distinction entre les informations fiables et les informations trompeuses. Face à cette situation, le spécialiste de la vérification des faits appelle davantage à la vigilance avant tout partage de contenu. Selon Loni Ereng Joël du réseau Chunguza Abari contacté par ces médias, l'intelligence artificielle est un outil utile qui permet d'accélérer l'exécution de nombreuses tâches. Toutefois, lorsqu'elle est utilisée de manière irresponsable ou malveillante, elle peut devenir un danger pour la société. Des acteurs mal intentionnés s'en servent notamment pour créer et diffuser des faux messages susceptibles de nuire à la stabilité sociale, sanitaire et économique des communautés. Pour lutter contre ce phénomène, Loni Ereng recommande aux utilisateurs des réseaux sociaux d'adopter une attitude prudente et critique. Avant de partager des images, vidéos ou autres contenus, il insiste sur la nécessité de vérifier soigneusement leurs sources et leur crédibilité. Cette démarche s'inscrit dans la mission de Chunguza Abari, un réseau de journalistes engagés dans la vérification des faits et la lutte contre la désinformation, conclut radiouniversitaire.net.
Un communiqué avant la fin de cette édition du journal, le collectif des écoles privées agréées du Congo, c'est pas quoi en sigle, informe tous les promoteurs des écoles privées, membres en particulier, et ceux de toutes les écoles privées agréées en général, la direction provinciale et l'inspection principale provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, sans oublier tous les autres acteurs et partenaires éducatifs en province et dans toute la RDC, de l'incident malheureux des fusillades par les éléments armés dont a été victime son coordinateur provincial le samedi 13 juin 2026 sur la route Miti-Bunyakiri au niveau du parc national des Kahuzi-Biega alors qu'il revenait d'une mission officielle dont la supervision du TENASOSP édition 2026. Cela étant, les CEPACO condamnent avec la toute dernière énergie cet acte ignoble qu'il qualifie de barbare qui a failli coûter la vie à son coordinateur et exige qu'une enquête soit diligentée afin de dénicher l'auteur pour qu'une sanction exemplaire lui soit infligée. Eu égard à ce qui précède, les CEPACO rappellent aux autorités politico-militaires en province et partout au pays qu'ils ont le devoir de sécuriser tous les citoyens en général et les acteurs éducatifs en particulier, surtout en cette période des épreuves certificatives pour un bon déroulement, car les intervenants dans ces dernières sont déployés dans tous les coins et recoins du pays. En termes de supervision en fond, le CEPACO précise que la victime est internée dans une structure médicale de la place où il poursuit les soins médicaux depuis le dimanche 14 juin 2026. Ensuite, à Bukavu, le 15 juin 2026, c'est signé par la coordination. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle d'Emile Mouindo. Au microphone pour la présentation, c'était de moi, Omer Moudé-Thérèse. Au revoir.